nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques de la Rosière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce troisième volet de Focus. Alors, avant de commencer, je vais retracer, comme je le fais à chaque fois, les événements clés, en tout cas, qui ont marqué votre carrière. Vous avez fait l'ENA, vous avez été directeur du cabinet de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing était donc ministre de l'économie. Les années suivantes, vous étiez inspecteur des finances, puis directeur du Trésor. Vous avez été également administrateur de Renault, d'Air France, de l'aérospatiale, de la SNCF. En 1978 et pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1987, vous êtes nommé directeur général du FMI. Et puis en 87 et jusqu'en 93, vous êtes le gouverneur de la Banque de France. Vous enchaînez les postes à responsabilité puisque vous remplacez en 1993, le créateur de la BERD, Jacques Attali. La BERD, c'est la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et puis, depuis 1998 et actuellement, vous êtes conseiller pour le groupe BNP Paribas. Et ajoutons que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis une douzaine d'années dans la section générale. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons évoquer votre rôle dans la mise en place de la monnaie unique, l'euro. Alors, en tant que gouverneur de la Banque de France et pendant le traité sur Maastricht, vous avez été confronté directement à la mise en place d'une politique monétaire européenne.
Oui, tout à fait. Pour situer les choses dans leur contexte, vous vous souvenez qu'on a créé sous l'impulsion de Jacques Delors ce qu'on appelle l'acte unique. Et c'est une décision qui a été prise en 1985-86. Et elle consistait à créer un marché complètement unifié des biens, des services, des personnes et aussi des capitaux. Et la logique de cette décision sur l'acte sur unique. Unique, c'était, si on voulait vraiment avoir tous les bénéfices du marché unifié, c'était d'avoir une politique monétaire unifiée. Parce que vous pouvez avoir la libre circulation des biens, des services et des personnes et des capitaux, mais si vous avez toujours une incertitude de change sur la valeur relative du franc par rapport à la lire ou au Deutschmark, les opérateurs économiques, les agents, les exportateurs, les entreprises sont obligés de faire des calculs et des prévisions difficiles sur la valeur de sa monnaie. Par rapport aux autres. Et comme on est une zone très intégrée du point de vue économique et commercial, et c'était d'ailleurs l'objectif de l'acte unique que de l'intégrer encore davantage, c'était quand même une faille que de ne pas avoir la certitude sur le change. C'est un peu comme si vous disiez les États-Unis sont un grand pays, ils ont de fait un acte unique, parce qu'il y a la liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux, mais en plus, ils ont une monnaie unique, qui fait qu'ils ne sont pas obligés de se demander tout le temps, dans le Delaware, s'ils vont avoir le même taux de change avec la Californie ou pas.
Vous étiez acquis directement déjà à cette idée qu'il fallait une monnaie unique pour l'Union européenne.
Oui, je le croyais depuis longtemps, et j'ai écrit beaucoup de papiers dans ce sens depuis des années. Et donc, je pensais que c'était, si on voulait avoir une zone monétaire optimale, c'était un grand progrès. Alors, cette orientation vers une monnaie unique a été approuvée par les chefs d'État européens. Et vous vous rappelez peut-être que c'est au sommet de Hanovre, au cours de l'année 1988, que cette orientation a été arrêtée. Alors, c'est à ce moment-là que Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne, a eu en charge de réunir les gouverneurs des banques centrales des pays européens, dont votre serviteur, et quelques experts qui ont été choisis, des experts de politique monétaire. Et nous étions donc membres de ce groupe qu'on a appelé le groupe Delors, parce qu'il le présidait. Et nous étions nommés, pour faire partie de ce groupe,
Vous étiez chargé de la mise en place ?
Non, on n'était pas chargé de la mise en place. On était chargé de concevoir et de présenter les éléments qui permettraient à l'Europe, si elle le désirait, et elle avait indiqué qu'elle le désirait, mettre en place une politique monétaire commune. Comment est-ce qu'il faudrait organiser la banque centrale pour ce faire? Les banques centrales nationales, comment devraient-elles s'organiser pour qu'on puisse gérer une monnaie unique, etc. Et donc, on avait été choisi à titre personnel, mais en fait, c'était évidemment aussi et surtout à titre de gouverneur de banque centrale. Mais le fait d'avoir été sélectionné à titre personnel voulait dire aussi que chacun des gouverneurs, indépendamment des instructions qu'il pouvait recevoir de son gouvernement, était appelé à réfléchir lui-même et à donner son propre avis. Ce que j'ai fait, car j'étais assez indépendant de nature et j'ai un petit peu utilisé cette notion de nommer à titre personnel pour dire à la direction du Trésor et au ministre des Finances de l'époque, qui était M. Bérégovoy, qu'il fallait me faire confiance, puisqu'aussi bien c'était moi qui étais au comité de l'or et que voilà, je mènerais ma barque dans le sens que je croyais conforme aux intérêts de la France.
Alors ce groupe est créé en 1988, le groupe de l'or, vous étiez combien ?
On était donc les 12 pays membres à l'époque de la Banque centrale, des banques centrales, plus 3 experts qui avaient été désignés pour leurs compétences. Et donc, on travaillait sous la houlette de M. Delors. Ça a commencé à se réunir en effet en 88. C'était début de l'automne et on a remis notre rapport en avril 89, vous voyez.
Très rapidement, au sein de ce groupe, vous avez été confronté à des difficultés ?
Moins qu'on aurait pu le croire, parce qu'en fait, nous étions sur la même longueur d'onde. Je viens de vous dire que moi, j'avais toujours pensé qu'il fallait une monnaie unique et je savais très bien qu'on ne pourrait avoir de monnaie unique que si la Banque centrale européenne, celle qui gérerait, impulserait la politique monétaire, était indépendante des gouvernements. Parce que si vous aviez une banque centrale où le gouverneur de la Banque de France continuerait de recevoir des instructions de son gouvernement, etc., ceci ne serait pas jouable, ne serait pas gérable. Les Allemands n'auraient jamais accepté que ce soit une espèce d'organe intergouvernemental où chacun demanderait tout le temps des instructions pour faire la politique monétaire. Ça ne serait pas possible. Et ça, je le savais. Et je crois que c'était pas la conception que je me faisais d'une banque centrale, d'une zone monétaire. Et donc, la difficulté qui aurait pu exister, ça aurait été une grande division, par exemple, entre le représentant de la Bundesbank, qui était M. Pöhl, et moi-même, parce que nous héritions de systèmes très différents. La Bundesbank était complètement indépendante, la Banque de France était complètement dépendante, comme je vous l'ai dit dans une autre émission,
et
donc il aurait pu y avoir une très grande difficulté. Mais en fait, moi j'étais pas du tout d'accord pour défendre le modèle, entre guillemets, d'une Banque de France, disons, à la Napoléon Ier. Je trouve que c'était complètement dépassé. Et donc, il n'y a pas eu de difficulté de fond. Celui qui aurait eu le plus de difficultés, c'était l'anglais. Parce que Madame Thatcher était très opposée à l'idée d'une monnaie unique. D'ailleurs, l'expérience a montré que les Anglais ne s'y sont pas joints.
Ils ne se sont pas pliés.
Et donc, il est assez remarquable que le gouverneur de la Banque d'Angleterre ait été assez indépendant, en fait, pour signer le rapport. Il avait une phrase disant que ça n'engageait pas ses autorités, mais il a signé personnellement le rapport parce qu'il était d'accord avec le concept de base. Et le concept de base était assez simple, c'était un ensemble de banques centrales nationales qui demeuraient, mais qui, en quelque sorte, apportaient leur pouvoir à une banque centrale européenne générale, qui, elle, déciderait dans son conseil des gouverneurs et dans ses instances dirigeantes de la politique monétaire à suivre pour l'ensemble de la zone. Et cette banque centrale devait être indépendante. Comme je l'ai dit, ça n'aurait pas pu fonctionner autrement. Donc, ce rapport est sorti, je me rappelle, en avril 1989, et il a en fait été la base sur laquelle la négociation intergouvernementale et le traité de Maastricht ont été élaborés.
Et 10 ans plus tard, donc en 1998, la création enfin de la Banque Centrale Européenne.
Absolument, et de la monnaie unique, l'euro, en 1999.
Donc en 1999, parallèlement, vous devenez le président de l'OEE, l'Observatoire de l'Épargne Européenne.
Oui.
Alors, est-ce que justement, c'est dans la même...
Un petit peu après, oui. C'est peut-être en 99.
C'était en 99, voilà, d'après mes sources.
Vous avez une mémoire, oui.
Oui, une mémoire.
Bon. Non, c'était pas...
Est-ce que c'était dans le même esprit? Est-ce que c'est dans la même lignée que ce...
Oui, on peut dire que c'est dans la même ligne, parce que c'est un...
Il faut peut-être préciser déjà ce que c'est que l'Observatoire de l'Épargne Européenne.
C'est ça. Alors, l'Observatoire de l'Épargne Européenne, que vous avez justement dit qu'il avait été créé en 99, dont j'ai pris la présidence, c'est un petit groupement, une association de la loi de 1901, qui est destinée à étudier les phénomènes d'épargne en Europe. Vous savez qu'il y a un arbitrage entre la consommation et l'épargne dans les revenus, et il est important de comprendre le phénomène de l'épargne, de savoir comment elle se manifeste, quels sont les avoirs financiers, quels sont les avoirs non financiers qu'on épargne, l'évolution de l'épargne, qui est un peu un indicateur aussi de la stabilité monétaire. Donc on a fait ça, mais il n'y avait pas un lien direct avec ce que j'avais fait à la Banque Centrale.
En 98, la Banque Centrale Européenne, en 99, cette association, et enfin, en 2002, le 1er janvier 2002, enfin, on peut trouver l'euro dans nos porte-monnaies. Donc pour vous,
Ah oui, c'était un symbole important, puisque vous avez raison, c'est à ce moment-là la monnaie fiduciaire, celle que les gens utilisent tous les jours, a été unifiée, et a été unifiée finalement avec beaucoup de facilité et beaucoup moins de difficultés qu'on ne l'avait prévu.
Donc ce en quoi vous avez cru, c'est réalisé.
Oui, c'est réalisé. Et alors maintenant, si je peux juste ajouter un mot, il est très important de faire en sorte que ce qui a été réalisé continue de fonctionner. Et pour ça, il faut qu'il y ait davantage, à mon avis, de coordination et de coopération au niveau des politiques économiques et des politiques structurelles des États membres.
Merci Jacques Delarosière, on se retrouve demain pour une dernière rencontre.
Merci.
On se donne rendez-vous à demain, même heure.